Bonjour, aujourd'hui, nous offrons une section de texte à tirer des médias suivants. Le moniteur acadien et l'inconvénient. Au programme, Roberto Di Donato, le bénévolat m'a ouvert les yeux. Et, dans le crépuscule de la mort. Bonne écoute.
Roberto Di Donato, le bénévolat m'a ouvert les yeux, un texte de Damien Dauphin, paru le 10 avril 2023 dans le Moniteur acadien. Penser autrement et agir avec le cœur. Faire de la communauté un lieu d'espoir. Tels étaient les principes directeurs de la campagne de financement 2022 de Centraide du Grand Moncton et du Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Celle-ci a porté ses fruits. Grâce au soutien et au travail acharné des partenaires communautaires et des entreprises, une somme de 2 217 983 dollars et 65 a été récoltée. En 2022, Centraide a appuyé 26 programmes essentiels par l'entremise de 25 organismes locaux, ainsi que ses propres initiatives, comme le programme de repas pour les aînés, le 211 NB et le logement avec service de soutien par les pairs pour loger les personnes qui ont des problèmes de santé mentale complexes. Il faut un village pour élever un enfant et toute une communauté pour cultiver l'espoir. Chaque jour, les efforts inlassables des dirigeants communautaires, nos incroyables commanditaires, partenaires, champions de la campagne, donateurs et nombreux bénévoles qui vont au-delà des attentes afin de nous permettre de continuer à effectuer des changements dans nos communautés, de dire Mishka Jacob, directrice du développement philanthropique de Centraide. Votre impact continue à se répercuter chaque jour dans les vies qui sont changées grâce à notre travail commun. Les choses inspirantes arrivent lorsque nous nous réunissons, ajoute-t-elle, à l'attention de celles et ceux qui ont généreusement participé à cette campagne. Cette campagne de financement annuel se déroule principalement de septembre à décembre. Elle a permis de recueillir des fonds par l'entremise de programmes de retenue salariale en milieu de travail, ainsi que de contributions individuelles et d'entreprises et d'événements spéciaux. Tous les fonds versés au Fonds communautaire de Centraide sont investis localement dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Pour le président du cabinet stratégique de la campagne, Roberto Di Donato, cette expérience de bénévolat fut une révélation. Le bénévolat, en tant que président du cabinet au cours de la dernière année, m'a ouvert les yeux sur l'énorme travail que l'organisme accomplit dans notre communauté et sur l'impact qu'il a sur les citoyens ordinaires. Dirigé par une équipe et un groupe de bénévoles fougueux et passionnés, Centraide touche directement plus de 17 000 personnes par année dans la communauté du Grand Moncton et du sud-est du Nouveau-Brunswick. Ceci est rendu possible grâce au travail incroyable de notre communauté. Ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'un grand pourcentage des dons provient d'entreprises locales qui mènent des campagnes de petits dons de leurs employés. Notre communauté ne manque jamais à l'appel de ceux qui sont dans le besoin, et c'est une chose belle et inspirante d'en faire partie. Fondée en 1953, Centraide du Grand Moncton et de la région du sud-est du Nouveau-Brunswick est un organisme de bienfaisance à but non lucratif. Il rassemble les gens et les ressources pour améliorer des vies dans la région en aidant les enfants à réussir et en faisant passer les gens de la pauvreté aux possibilités. C'était Roberto Di Donato, « Le bénévolat m'a ouvert les yeux », un texte de Damien Dauphin, paru le 10 avril 2023 dans le Moniteur acadien.
Dans le crépuscule de la mort, un texte de David Doré paru au printemps 2023 dans L'Inconvénient. Veillant au chevet de son conjoint Simon Roy, atteint du cancer, Marianne Marquis Gravel a occupé certaines de ses périodes de friche à écrire sur leur relation, jusqu'au décès de l'auteur de « Ma vie rouge Kubrick » le 15 octobre 2022. Dans ce temps insupportable d'attente et d'expectative, dans cette course contre la mort que constituent les derniers moments d'une personne, elle a eu la chance de compléter son ouvrage et de le faire publier. C'est le premier livre de l'autrice, dont on espère que le travail littéraire prendra son envol et trouvera son impulsion propre, dégagée des circonstances tragiques qui l'ont vu naître. Car il s'agit d'une œuvre déjà maîtrisée, laissant deviner que l'écrivaine aurait le talent d'en créer d'autres qui mériteraient leur place dans le paysage de la littérature québécoise. Le titre du récit, « Dans la lumière de notre ignorance », prête à interprétation. Marianne et Simon savaient qu'ils allaient mourir. C'était là leur cruel privilège. Alors, pourquoi parler d'ignorance? Peut-être désigne-t-elle celle qui a présidé à leur rencontre et qui les a poussés à entamer une relation sans connaître le douloureux parcours qui les attendait. Ou peut-être renvoie-t-elle à cette part d'inconnu qui réside dans tout événement marquant, même prévu, qu'il soit heureux ou non. Car on ne sait jamais ce que nous promet une naissance, un déménagement, un divorce, un décès. Inconscience bénie qui nous fait avancer dans la vie, et sans laquelle on n'oserait rien entreprendre. À travers une prose descriptive aux accents lyriques, on découvre une personne que, comme le veut l'adage de Buffon, son style résume, c'est-à-dire une femme débrouillarde et courageuse à l'esprit inaltérablement romantique. En somme, pragmatique mais rêveuse. Au fil de nombreuses vignettes, elle nous fait entrer dans la vie du couple avant la maladie, puis au cours de celle-ci. Il y a là de la tristesse, bien sûr, mais l'autrice sait éviter le larmoiement. Même dans les moments les plus tendres ou les plus affligeants, l'expression reste contenue et résiste à la tentation de se lancer dans des hyperboles débridées, des énumérations étourdissantes, des métaphores sirupeuses, pièges auxquels n'aurait peut-être pas échappé quelqu'un de moins mature. Marianne Marquis-Gravel n'est pas pour autant une princesse de Clèves, à l'émotivité corsetée dans une étroite décence. C'est une âme romantique, et elle l'assume. L'amour qu'elle dépeint dans son livre est une passion rédemptrice. Cette femme, qui n'avait jamais vraiment été éprise, voilà qu'elle rencontre un collègue enseignant plus vieux qu'elle, dont l'assurance, l'intelligence et l'humour lui font comprendre qu'il suffisait de trouver la bonne personne pour que fleurisse en elle une admiration et un dévouement sans bornes. La fatalité frappera leur relation, mais elle leur donnera en même temps l'occasion de connaître l'éternité de l'amour. Comme dans la fable de Tristan et Iseut, la mort sera vaincue, une véritable bénédiction. Parmi tous ces couples qui nous entourent, nous sommes celui qui ne vivra jamais la longue monotonie du quotidien, celui qui ne connaîtra pas l'essoufflement de la passion, celui qui ne saura pas ce qu'est la haine de l'autre, l'envie de le tromper, de le faire souffrir, de le quitter. Le temps ne fanera pas notre amour. Cette profession de foi, présente en début de livre, est réitérée dans les dernières pages. Désormais, dit-elle, chaque fois qu'elle entendra une de leurs chansons, elle sentira la pression de sa main. Elle tâchera de lire avec sa pensée à lui les livres qu'il lui a légués. Chaque fois qu'elle entrera en classe, elle essaiera, comme lui, de toucher les étudiants au plus profond de leur être. À l'instar de Lamartine dans le lac, elle est convaincue que les éléments de la nature, érables, ruisseaux, humus et brindilles, vont continuer à porter sa présence à lui et qu'elle le retrouvera à chaque promenade en forêt. Un tel romantisme aurait pu m'agacer. Pourtant, il m'a fait mettre de côté mon incrédulité, ne serait-ce que temporairement, pour acquiescer à cette vision optimiste des choses. J'y ai cru pour elle. Sincérité désarmante de l'écrivaine qui emporte l'adhésion? Peut-être. Il faut aussi souligner que tout n'est pas idyllique dans ce récit et que la foi en l'absolu de l'amour, sans doute insupportable si elle seule avait existé, vient faire contrepoids aux affres d'une relation que le quotidien de la maladie met à rude épreuve. Le plus douloureux pour moi a été de constater l'écart qui se creusait entre les deux amoureux à cause des ravages du cancer. On le sait, les tumeurs au cerveau affectent l'être entier, idées, humeurs, personnalité. Il est pénible de voir Simon Roy devenir de plus en plus morose, agressif et paranoïaque envers celle qui se consacre corps et âme à prendre soin de lui. Au début du livre, on l'a connu enjoué et généreux, par exemple dans cette scène charmante où il se rend seul à la maison qu'il vient d'acheter, puis quelques heures plus tard invite sa blonde à le rejoindre. En plein hiver, il a dégagé le balcon de la neige qui le recouvrait et il a installé des guirlandes, des chandelles, des coussins, des couvertures pour accueillir sa bien-aimée. Plus tard, quand le mal a progressé, il devient odieux envers elle. Bien sûr, ce n'est pas sa faute. Ce n'est même plus lui. N'empêche, alors que Marianne se dévoue presque avec sainteté, il l'accuse de faire des manigances pour le garder aux urgences. Il la rend responsable de tous les malheurs qui l'accablent, jusqu'au bruit dans sa chambre d'hôpital. Torture horrible. Chaque fois qu'elle lui dit qu'elle l'aime, lui, il l'imagine déjà répéter des paroles identiques au conjoint qui viendra le remplacer après son décès. Il lui ordonne donc, avec hargne, de se taire. Et dans ses moments de lucidité, il espère que la tumeur l'emportera sans délai pour que sa blonde soit enfin libérée de son fardeau. Vous écoutez « Dans le crépuscule de la mort ». Un texte de David Doré paru au printemps 2023 dans L'Inconvénient. Devant tant de difficultés et devant le scandale que représente la mort, Marianne Marquis-Gravel hésite entre deux perspectives. D'un côté, il y a l'absurdité. Le mythe de Sisyphe, revu par Camus, rappelle que rien n'a de sens. Le mieux que l'on puisse faire, c'est d'acquiescer au vide, à l'effort sans but, au triomphe de la mort. Donner des soins à une personne qui bientôt ne sera plus là. Aussi bien arroser une fleur qui, on le sait, le soir même sera fanée. Mais d'un autre côté, il y a la spiritualité. L'autrice raconte sans embarras ses visites chez une médium. Celle-ci semble avoir accès à un autre ordre de réalité, d'où elle rapporte des informations étonnantes d'exactitude, jusqu'à la date précise de l'opération de Simon Roy. Existerait-il donc un monde parallèle où flotteraient des esprits avec qui l'on aurait le droit de communiquer? De même, les témoignages d'expériences de mort imminente concordent étrangement et laissent entrevoir un règne immatériel. Alors, la mort ne serait pas une fin, l'espoir serait permis. L'amour pourrait survivre. En fin de compte, pour l'écrivaine, le salut ne vient ni de la résignation à l'absurde, ni de l'adhésion à l'au-delà. Il vient d'une forme de magie immanente, qui agit dans la matérialité et pourtant tisse un univers échappant aux lois du nôtre. Il vient de la littérature. Ainsi, à travers l'écriture, Marianne Marquis-Gravel peut faire revivre leur passé. C'était un passé ordinaire, celui des couples qui n'ont pas peur du lendemain et qui se disent « je t'aime » dans la bienheureuse légèreté des jours qui avancent le nez en l'air. Tous les deux, ils prenaient la moto et partaient pique-niquer au bord de la rivière. Elle se collait contre sa chaleur. De tels moments n'existeront plus jamais, et malgré cela, par la grâce de l'invocation verbale, par la puissance de l'imparfait et du passé composé, il réémerge, presque intact, de l'abîme du temps. Le présent de l'indicatif, quant à lui, encore mieux que le conditionnel, fait apparaître un avenir où Simon est vivant. Marianne et lui ont eu un enfant, à qui elle aime lire les aventures d'un crayon. Avec sa mine, il donne naissance à ce qui lui chante. Des personnes gentilles et de beaux endroits. Serait-ce un emblème du pouvoir de l'écriture? Car ce songe d'une vie impossible, rendu présent par le simple alignement des phrases en un récit, l'autrice l'intitule « La fiction aura toujours le dernier mot ». Pour ma part, cela me paraît désespérément optimiste de dire « toujours ». Mais la fiction représente bel et bien un au-delà ténu où peut se dérouler, par l'assemblage des mots, une série d'événements rêvés, tellement beaux que l'existence réelle ne saurait les tolérer et doit les empêcher d'advenir. Comme au théâtre, le temps d'une fable, un autre monde est possible. La même magie de l'écriture opère dans la métaphore, notamment la métaphore filée. Elle transforme une chose banale en symbole digne de porter un plus haut sens. Au début, ce ne sont que des mentions anecdotiques de plantes, des trucs au nom mi-latin, mi-barbare, comme Stromanthe lubercii ou Friedeck variegata. Marianne les achète pour en garnir la nouvelle maison. Puis, au fil des pages, ces descriptions botaniques reviennent avec un tel entêtement qu'on se dit qu'elles ont sans doute une signification profonde. Pourquoi leur consacrer tant d'espace sinon? Oui, à bien y penser, certainement. Ce philodendron qui ne flamboie de son rouge safrané que quelques jours avant de tourner au vert terne, n'est-il pas à l'image des jours de bonheur dont il faut profiter alors qu'il s'enfuit si vite? Ce monstera dont les feuilles en forme de cœur se trouent d'elles-mêmes pour laisser passer la lumière au bénéfice des plus petites feuilles, n'est-ce pas Marianne elle-même qui accepte de faire des trous dans ses vies pour y loger son amoureux défaillant? Et dans l'ensemble, ces plantes patiemment transplantées et entretenues, ce sont des êtres qu'il vaut la peine de soigner, malgré leur modestie. Ce sont aussi des formes de vie. Leur fragilité, est-ce une raison pour les négliger? Non, au contraire. Ce qui est petit et vulnérable, on le couve, quand le froid et la rudesse de l'existence risquent de le tuer d'un coup. La mort, c'est tellement brutal, et tellement abstrait et absurde. Ce que je sais, dit l'autrice, c'est que, même si je ne comprends rien à ce qui arrive, j'ai encore la possibilité de mettre en pot, de nettoyer les feuilles, de plonger la main dans la terre, comme je la plonge dans tes cheveux, tu vois, et ses doigts sur tes joues, ses lèvres sur ton front. Dans l'insignifiance de leur éphémérité, ils sont concrets, ils sont réels. L'amour, comme la mort, c'est bien abstrait, mais on peut toujours en donner des preuves, comme de caresser avec précaution le duvet, aussi fin que des radicelles qui repoussent après la radiothérapie. Vous écoutez « Dans le crépuscule de la mort », un texte de David Doré paru au printemps 2023 dans « L'inconvénient ». C'est aussi dans l'éclairage de la mort que Thomas Mengi place ses portraits d'écrivains, qu'il appelle des crépuscules admirables. La mort, ici, consiste plus en une perspective heuristique qu'en un véritable sujet, car les 12 textes ne se concentrent pas spécialement sur le décès des auteurs choisis, qui, de toute façon, ont connu des fins disparates, maladie, vieillesse, accident, suicide. Envisager ces carrières depuis leur aboutissement permet toutefois d'en apercevoir les éléments essentiels avec plus d'acuité, avec une lucidité où se combinent la mélancolie et l'éblouissement, de la même manière qu'un point de vue depuis un belvédère fait mieux apprécier les contrastes d'un paysage. L'essayiste appartient à ce qu'on pourrait nommer l'école contre-jour, des auteurs qui sont à peu près de la même génération et qui ont œuvré et publié dans ces cahiers littéraires parus de 2003 à 2019. Ils partagent une haute conception de la littérature, chargée d'apporter sur le monde une connaissance précieuse, inaccessible autrement. Dans cette posture proche du romantisme allemand, il existe des vérités élevées, presque absolues, jusqu'auxquelles un patient travail de lecture, de réflexion et d'écriture, garant pour certains d'un affinement de l'âme, permet de se hausser. Ces écrivains se distinguent par une proximité avec la pensée philosophique, une inclination pour la forme essayistique et un souci du style. On retrouve chez Thomas Mengi ces caractéristiques dont le défaut est parfois de produire une prose éthérée, à la peau rendue diaphane par les nombreux vocables abstraits. L'écriture se fait aérienne. La lecture se doit de rester attentive. Ainsi, à propos de Marguerite Yourcenar, les méditations que lui inspire, sic, l'histoire, ellipse, nous procurent des prises de vue aussi vastes que profondes sur l'existence. On tend l'oreille à la rumeur de l'immobile éternité qui monte du fond de ses visions. Et c'est là que le moi est en mesure de sentir, du fait de ses virtualités à disparaître dans l'infini, l'étrange symétrie du néant et de l'être. En revanche, la grande qualité de l'auteur, qu'il partage avec ses anciens collègues de contre-jour, est qu'il nous fait entrer dans des œuvres riches, qu'il semble connaître sur le bout des doigts. Même s'il ne nous l'avait pas dit, on aurait compris, à l'aisance avec laquelle il résume des pensées subtiles, qu'il fréquente ses textes depuis longtemps, qu'il les a médités et assimilés au point qu'ils font maintenant partie de sa vision du monde. C'est un privilège pour le lecteur de bénéficier d'un guide aussi sûr. Avec pour seul critère l'admiration et une amitié développée au fil de fréquentations répétées, Mengi brosse le portrait de 12 écrivains qu'il a choisis, dont certains m'étaient peu connus. Robert Walser, W. G. Sebald, voire pas du tout, Jean Follin, Catherine Poddy. Dans ses essais courts, de 6 ou 7 pages chacun, il retrace une pensée et une existence, citant toujours quelques phrases et introduisant parfois des anecdotes personnelles. Dès le premier texte, sur Marie Huguet, l'auteur souligne l'importance de la matérialité du réel, qui vient offrir une assurance indubitable en réponse au vertige de l'absurdité. Les objets fermes, les géométries de la lumière, la densité de la chair s'opposent à la décomposition du sens provoquée par la mort. Cette idée, Mengi la répète à propos de Jean Follin et de Louis Aymon. Le caractère concret du monde tel qu'il est nous permet de contrer les macabres forces de dissolution et de nous ancrer dans la solidité du règne terrestre. Dans ses poèmes, le promeneur de Paris célèbre des fêtes pour les menus objets du quotidien, assiettes brisées, tablier froissé, montre retirée aux défunts, tandis que l'auteur de Maria Chapdelaine oriente son existence vers des travaux manuels, défrichage, fauchage, chaînage. Un tel parti pris pour la matière se double, chez les écrivains présentés par Mengi, d'un engagement dans des actions modestes, que leur modestie rend admirable. Sébald décrit une femme qui, à petits coups de balai, nettoie son seuil au beau milieu des ruines de Hambourg. Arthur Buis, après avoir parcouru la nature sauvage de l'Outaouais, prend des bouleaux terre à terre pour assurer à ses enfants une stabilité. Robert Valser, ancien élève d'une école pour domestiques, promène son costume trois pièces élimé dans les montagnes suisses, où il trouvera la mort, le nez dans la neige. On remarque ainsi chez l'essayiste un amour pour les figures humbles, telle cette mendiante qu'il connaît de vue et qu'il dépeint avec sensibilité, discrète silhouette qui erre en silence dans les coulisses de la société. Les gestes sans prétention sont, pour l'auteur, les garants d'un rapport franc au monde, dégagé des ambiguïtés du symbole. Il y a là quelque chose de reposant. Et il y a là une dignité humaine qui, en toute lucidité, s'enfonce dans le terreau de la vie pour résister aux vents glaciaux de la mort, dont le souffle ne cesse jamais. C'était « Dans le crépuscule de la mort », un texte de David Doré paru au printemps 2023 dans L'Inconvénient.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et André Lebeau à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.